franceinter.fr.
Aujourd'hui, à la lune de la science, de nouvelles découvertes autour de l'homme de Flores qui aurait disparu donc plus tardivement que ce que l'on pensait.
L'une des hypothèses la plus évidente est qu'il s'agit d'un Homo erectus, d'un descendant nain d'Homo erectus. Une population ancienne d'Homo erectus déjà en Asie du Sud-Est aurait pu, peut-être aux environs d'il y a 800 000 ans, arriver à Flores. L'isolement et l'écosystème de l'île ont fait que les descendants de ces premiers migrants, avec le temps, ont rapetissé. Le résultat, 800 000 ans plus tard, c'est Homo floresiensis.
Et donc on le croyait éteint il y a environ 12 000 ans, mais une étude parue dans Nature remet en cause ce scénario. L'équipe responsable des fouilles initiales dans la grotte de Luang Bua en Indonésie a réétudié donc la stratigraphie du site et considère donc désormais que cet homme de Flores a vécu entre moins 100 000 et moins 60 000 ans. Bonjour Antoine Balzo.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes maintenant notre spécialiste attitré de l'homme de Flores.
Sur l'homme de Flores,
c'est
oui.
Ça. Finalement, on en parle assez souvent. Hein. Il y a beaucoup de publications, ça veut dire qu'il intéresse beaucoup les scientifiques.
Il passionne parce qu'il pose beaucoup de questions. Il est tellement différent, tellement particulier que forcément, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ça interroge.
Ouais, et peu de spécimens pour pouvoir en parler ?
À la fois peu et beaucoup. C'est vrai qu'on donne cette image de « on a un spécimen et c'est unique » et certains chercheurs critiquent ce fait-là, mais forcément, quand on trouve une nouvelle espèce, ou un nouveau cas d'homme préhistorique, forcément le premier qu'on trouve, c'est le premier. Ouais. Et dans le cas de Flores, on a une douzaine d'individus, ce qui n'est pas si mal pour des populations anciennes.
Et ils font quelle taille à peu près, donc ce qu'on appelle les hobbits ?
Ils font un petit mètre.
Ouais. Qui étaient-ils alors exactement ? Quelle est leur carte d'identité ? Un premier profil avant de parler de ce qui a été découvert ?
Alors ce qu'on en sait, c'est qu'ils étaient petits, avec un tout petit cerveau. Il y a un squelette assez complet et puis d'autres individus représentés par des ossements isolés qui permettent de dire quand même que globalement ils avaient tous la même stature, un peu plus d'un mètre.
Ouais.
Le cerveau, c'est vraiment tout petit, c'est de la taille de celui d'un chimpanzé ou des australopithèques, alors que c'est un homme qui a vécu très récemment. Donc ça, c'est réellement surprenant.
Ouais.
Et puis surtout, ce qui pose beaucoup de débats, c'est qu'il est petit avec un petit cerveau, qu'il a fait des outils, qu'il a utilisé le feu et qu'il est arrivé sur une île.
Donc il avait quand même des capacités intéressantes, malgré ce petit cerveau.
C'est bien le problème, c'est le lien qui est fait entre les données scientifiques qui sont réelles et les interprétations qui sont faites derrière et qui posent problème à certains, qui partent du principe que toutes ces éventuelles capacités sont impossible avec un aussi petit cerveau.
Ouais, donc il y a plein d'hypothèses évidemment qui sont émises à son sujet. Alors qu'est-ce qui a amené là en l'occurrence les chercheurs à douter des dates de sa présence sur cette île ?
Ils n'ont pas vraiment douté, ils ont poursuivi les travaux. Les premières publications étaient une synthèse de résultats obtenus sur 3 années dans une grotte qui est très particulière. À fouiller, c'est très compliqué parce qu'il y a un sol très épais, très dur qu'il faut percer. Donc ils avaient fouillé juste quelques zones de la grotte. Là, ils ont multiplié par 3 à peu près la zone fouillée, sachant qu'il y a encore un potentiel gigantesque. Il y a 20 fois plus à fouiller dans cette grotte-là, mais c'est très très compliqué.
Mmh.
Et donc au lieu d'avoir 3 ans de recul sur les informations, ils ont 15 ans et beaucoup plus de données. Et ils ont réussi à voir qu'ils avaient peut-être interprété un peu vite les premiers résultats, que la stratigraphie, c'est-à-dire la superposition des couches dans la grotte, était beaucoup plus compliquée, et que certaines données qu'ils avaient crues très proches des fossiles, qui avaient donné ces âges autour de 20 000 ans, en fait, étaient un mélange de choses plus récentes avec des choses plus anciennes.
Ouais.
D'où ce nouveau calcul d'âge.
Et donc, un bond en arrière étonnant quand même. On passe de 12 000, 20 000 ans à combien ? 60, quasiment 100 000 ans ?
50 000 à peu près pour la disparition, sachant que ce sont que des dates qui montrent les moments où on trouve les choses. Ça n'implique pas qu'il n'a pas continué à vivre après. Et en fait, ce qui était très surprenant au départ, c'était cette date de 12 000 ans qui montrait que Flores aurait vécu tellement tardivement qu'il aurait forcément croisé Homo sapiens. Et là, cette date de 50 000 ans, à l'inverse, en remontant dans le temps, ça arrive à une période où Homo sapiens faisait probablement son arrivée dans ces régions-là, mais on est c'est moins évident qu'il se soit obligatoirement croisé.
Oui. Donc là, il faut changer tous les manuels au sujet de l'homme de Flores, sur sa date de disparition. Quand on a une publication comme ça, justement, il faut tout modifier parce que c'est la dernière vérité, en tout cas, émise.
Alors, particulièrement en paléoanthropologie ou en évolution, la dernière vérité, on sait qu'elle peut être modifiée à la moindre découverte. La preuve, on trouve un nouveau fossile un peu plus récent, ça pourrait tout à fait arriver. L'importance là, c'est que ça contextualise beaucoup mieux. Les dates sont plus robustes, plus solides, donc ça permet d'en savoir plus et plus précisément sur cet homme-là.
Ouais. La technique de datation, c'est toujours quelque chose de compliqué aujourd'hui ?
C'est compliqué, c'est toujours compliqué, et puis c'est dépendant des endroits où on cherche. Là, l'intérêt de cet article-là, c'est que c'est une datation faite avec plein de techniques différentes, complexe, avec toutes des limites, et le résultat est précis justement parce que ils sont allés dans la précision de chacune des techniques et tout est concordant. Alors qu'avant, ils n'avaient que des dates avec une seule technique qui était erronée, mais parce qu'il y avait ces mélanges sédimentaires. Là, ils ont tout un ensemble d'informations qui semblent dire que la couche où il y a les fossiles a à peu près 50 000 ans.
Ouais. Donc ça remet en cause également l'environnement de cet homme de Florès et effectivement le fait qu'il ait pu ou pas côtoyer donc, l'homme moderne.
Ça reste complètement ouvert, cette question-là. Ce qui est certain, c'est que là, ça nous donne une vision un petit peu différente. Ça montre que Florès a vécu il y a 50 000 ans avec des marabouts géants, avec des stégodons nains, avec des animaux très particuliers et que, a priori, dans les couches au-dessus, plus récentes, il n'y a plus toute cette faune-là, ni l'homme de Florès. Et ce qui interroge, c'est que en Australie, on connaît à peu près la même histoire à la même époque, avec une faune australienne très particulière, des grands animaux, des animaux très différents qui ont disparu il y a à peu près 50 000 ans, avec l'arrivée d'Homo sapiens.
Sauf qu'on
la question qui est posée directement, c'est est-ce que c'est encore Homo sapiens ?
Voilà, sauf qu'on n'a pas découvert de squelette en Australie, en l'occurrence, autour de cette faune.
D'Homo sapiens, vous voulez
dire ? Non, de petit homme comme Florès.
Non, d'homme de Florès. Non. Mais là, justement, en Australie, l'idée, c'est de vraiment montrer le premier impact massif de notre espèce sur son environnement. La première grosse destruction de la faune qu'on a pu faire et de la biodiversité, c'est en Australie ou en Amérique, où l'homme arrivant dans des environnements où il n'y avait pas un hyper-prédateur comme l'homme, a complètement chamboulé l'environnement et détruit énormément d'animaux. Ouais. Et donc là, la question, c'est de savoir si à Florès, où on a aussi des espèces particulières, Homo sapiens n'aurait pas pu jouer un petit rôle.
Ouais. Ce nanisme, justement, de cet homme de Florès, alors il y a une question d'ailleurs de Christophe, qui nous demande s'il y a un peu de hobbit en nous aujourd'hui. Alors ça, ce sera après le travail peut-être de la génétique.
Ça, c'est une bonne question. Pour le moment, on ne sait pas. Et je ne suis pas sûr qu'on pourra répondre à ça un jour, peut-être. La génétique
progresse.
On l'a
vu avec l'homme de Denisova très récemment.
Voilà, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50 000 ans, il y avait à peu près au moins 5 groupes humains différents qui vivaient.
En même temps. Hein.
En même temps. Ouais, ouais. Et qui sont échangés des gènes. C'est le cas entre Néandertal, Sapiens et Denisova. Ouais. Et vraisemblablement Erectus aussi, qui a un peu participé à notre patrimoine génétique.
Ouais. Mais sur cette île indonésienne, ils étaient les seuls, a priori, ou pas ?
Bah, pour le moment, l'homme de Florès, pour le moment, on n'a que des restes d'homme de Florès pour toute cette période de temps, et l'arrivée d'Homo sapiens est bien plus tardive.
Ouais. Cette grotte, c'est un lieu extrêmement protégé aujourd'hui, puisqu'il n'y a qu'à cet endroit pour l'instant qu'on a la présence de l'homme de Florès.
C'est ça, c'est une sorte de forteresse archéologique majeure, très important, où il continue à travailler, heureusement, puisque ça permet d'améliorer les résultats.
Bon, donc on aura l'occasion de se recroiser à nouveau, j'imagine.
Probablement, la prochaine trouvaille.
Puisqu'on a régulièrement des nouvelles de l'homme de Florès, donc la plus récente dans Nature, justement sur la datation et l'époque où il vivait et où il a disparu. Merci beaucoup d'être passé par la Tête au Carré aujourd'hui. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Jupiter percuté par un astre, deux astronomes amateurs, un Autrichien et un Irlandais, ont filmé par hasard cette incroyable collision. Le phénomène qui a eu lieu le 17 mars dernier a donc été visible depuis la Terre, soit quelques 600 millions de kilomètres de distance. Les enregistrements vidéo concordants ont été validés par la NASA, qui évoque l'hypothèse d'un astéroïde explosant dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Mise en ligne sur YouTube immédiatement après la collision, la première de ces vidéos a fait le buzz avec plus de 2 millions de vues et vous pouvez la voir en lien sur la Tête au Carré. Alerte à la disparition de certaines libellules en France, elles embellissent les jardins, ont souvent des noms à faire pâlir les poètes, la cordulie splendide, l'agrion bleuissant, encore la déesse précieuse, font partie des 11 espèces de libellules désormais menacées de disparition en France métropolitaine. Le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Union Internationale de Conservation de la Nature tirent la sonnette d'alarme, en cause la réduction des zones humides dont dépendent ces insectes pour se développer, la pollution des eaux. En tout, une vingtaine d'espèces de libellules sur les 89 que l'on peut voir dans nos régions sont concernées de façon plus ou moins aiguë par ce risque de disparition. Et puis une révolution dans l'excrétion. Lors de la conférence mi-mars en Floride, une vidéo a ébranlé le monde des spécialistes de l'évolution. On peut y voir un cténophore, un cousin des méduses, dévorer son repas rendu fluorescent. Ce qui a frappé les chercheurs, c'est qu'après sa digestion, l'animal a excrété des restes de son menu, non pas par la bouche, comme ce qui est attendu chez ce groupe animal, mais par des pores latéraux. Et c'est bien cela qui bouleverse nos chercheurs, car jusqu'à présent, les premiers animaux comme les éponges ou les méduses à avoir vu le jour ne possédaient qu'un seul orifice pour les deux fonctions. Désormais, tout Toute la question est de savoir si ces animaux ont développé ce simili-anus de façon indépendante ou s'il s'agit d'un caractère ancestral qui a été perdu secondairement chez les méduses, éponges et autres anémones.